VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce mercredi 25 février. À la une ce soir.
République centrafricaine, les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia prêts à signer une déclaration pour rejoindre le processus de réconciliation.
En Guinée, le choix de militaire comme ministre de l'administration territoriale fait des vagues.
C'est avec un grand étonnement que nous avons appris qu'un autre général vient d'être nommé pour gérer effectivement les élections.
À suivre, l'analyse du politologue Chérif Nema François.
Au Togo, vers la candidature de Faure Gnassingbé à un troisième mandat présidentiel.
Crise en Ukraine, les États-Unis accusent les rebelles séparatistes et le gouvernement de Kiev de violer l'accord de cessez-le-feu.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Guinée, la nomination d'un militaire à la tête du ministère de l'administration territoriale par le président Alpha Condé a suscité de nombreuses réactions à Conakry. Le général Bourima Condé remplace Alassane Condé depuis hier, ce dernier devenant conseiller présidentiel. Nathalie Barge a joint ici à Washington le politologue guinéen Chérif Nema François.
Depuis 2010, les Nations Unies, en partenariat avec les autres organisations régionales et sous-régionales, ont décidé d'aider la Guinée pour engager la réforme de l'armée. Donc il était question que l'armée reste dans les casernes, de pacifier le pouvoir. Donc c'est avec un grand étonnement que nous avons appris qu'un autre général vient d'être nommé pour gérer effectivement les élections qui ne sont pas encore programmées pour cette année, qui devraient être organisées. La date devrait être connue, mais jusqu'à présent, la date n'est pas connue. Donc un général qui n'a aucune expérience dans l'organisation des élections, alors le peuple a appris la nouvelle avec un grand regret. C'est une marche en arrière sur le plan démocratique de la Guinée.
Toujours concernant la Guinée, l'imam de la mosquée de Yimbaya poursuivi pour coups et blessures sur les agents en campagne contre le virus Ebola a été relaxé.
Le président togolais Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 10 ans, devrait être investi ce mercredi par son parti pour la prochaine élection présidentielle aux grandes dames de l'opposition et de la société civile qui veulent l'empêcher de briguer un troisième mandat. Jean-Roger Billon.
Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, UNIR, est en convention d'investiture à Kara, 420 km au nord du pays. Selon l'AFP, il y a plus de 700 délégués, tous vêtus de t-shirts et casquettes blancs. Le slogan à la cérémonie d'ouverture laisse moins de place au doute sur le choix du candidat pour la présidentielle. Quand on est uni, on est fort derrière le président Faure. Monsieur Gnassingbé n'a pas assisté à l'ouverture, mais viendra dans l'après-midi pour la cérémonie d'investiture. Lors d'un conseil de ministres mardi, le gouvernement du Togo a fixé au 15 avril la date de la présidentielle à tour unique. 7 personnalités ont déjà annoncé leur candidature. Parmi elles figurent Jean-Pierre Fabre, chef de l'opposition, Kofi Nyamnyan, un franco-togolais ayant été secrétaire d'État au président français François Mitterrand, et Alberto Olympio, homme d'affaires et petit-neveu du premier président togolais Sylvanus Olympio, assassiné lors d'un coup d'État en 1963. Faure Gnassingbé avait été porté au pouvoir par l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Gnassingbé Yadema, qui a dirigé le Togo pendant 38 ans. Le fils a été élu président la même année, puis réélu en 2010 lors de scrutins contestés par l'opposition. En 2005, les violences électorales avaient fait, selon l'ONU, entre 400 et 500 morts.
Crise en République centrafricaine, les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia sont prêts à signer une déclaration pour rejoindre le processus de réconciliation. Et ils étaient accusés par Bangui de saper la transition. Des précisions avec Idriss Fall.
Les deux anciens présidents engagés depuis début décembre dans des pourparlers de paix à Nairobi aux côtés des ex-Seleka et Antibalaka ont paraphé un texte commun dans lequel ils disent adhérer à l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville le 23 juillet 2014. Cet accord conclu à l'arraché n'avait pas mis fin pour autant aux violences. Dans ce texte, qui devrait être formellement signé lors d'une cérémonie en présence du médiateur de la crise, le président congolais Denis Sassou Nguesso, Bozizé et Djotodia appellent leurs partisans et sympathisants à soutenir le processus de sortie de crise résultant de l'application effective de la feuille de route de la transition. Ils se disent disponibles à participer à tous les organes et structures en charge de la préparation du forum politique inclusif de Bangui et des élections à venir. Selon une source proche des négociations de Nairobi, les ex-Séléka et anti-Balaka ont amendé l'accord de janvier qui pourrait être formellement signé avec la déclaration des deux anciens chefs de l'État.
Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, 18 personnes ont été tuées depuis le 15 février dans les attaques menées par des miliciens pygmées contre des villages bantous. C'est le bilan annoncé par les Nations Unies.
Les services secrets français disent qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre de deux opposants congolais fin 2000 en France. Selon l'AFP, c'est ce qu'a assuré un ancien haut responsable du service de renseignement français au procès des commanditaires présumés. Deux hommes, jugés depuis lundi, sont accusés d'avoir fomenté l'assassinat de Philemon Nalouindja, chef Maïmaï d'une tribu de la région du Kivu en République démocratique du Congo, et d'Emmanuel Atembina, conseiller militaire du gouvernement congolais à l'époque de Mobutu Sese Seko, au pouvoir de 1965 à 1997.
La Libye pourrait se transformer en une nouvelle Syrie. Telle est la mise en garde du ministre libyen des Affaires étrangères cité par l'AFP. Lors d'une visite mardi soir à Paris, Mohamed Dahiri a déclaré que les Occidentaux doivent armer les forces libyennes qui combattent les djihadistes. Il s'agit d'une menace qui s'intensifie contre l'Europe, a-t-il souligné.
Au Mali, pour sauver les manuscrits de Tombouctou, les archivistes numérisent et classent laborieusement dans un ordinateur les précieux parchemins entassés sur les étagères métalliques. Rescapés des outrages du temps de l'occupation djihadiste, les manuscrits de Tombouctou risquent de dépérir loin de leur légendaire cité malienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Mogadiscio se félicite de la nomination d'un nouvel ambassadeur américain en Somalie, le premier depuis 1991, c'est-à-dire depuis la chute du dictateur Siad Barre et la guerre civile qui a suivi. Cependant, les États-Unis sont toujours réticents à ouvrir une ambassade dans le pays pour des raisons sécuritaires. On fait le point avec Michel Joseph.
Pour le premier ministre somalien Omar Abdirachid, la nomination de Catherine Danani représente assurément un développement très positif dans les relations avec Washington. Joint par téléphone à Mogadiscio, son porte-parole Ridouane Hadji a dit à la VOA.
Cette nomination tombe à point nommé. C'est en effet pendant les années 2015 et 2016 que le gouvernement somalien veut réaliser beaucoup de choses et le soutien des États-Unis dans le domaine de l'assistance sécuritaire et humanitaire est vraiment important. La diplomate Catherine Danani a servi dans plusieurs pays africains, dont le Zimbabwe, le Gabon, la Zambie, la RDC et le Congo-Brazzaville. Si le Sénat entérine sa nomination, elle remplacera le représentant spécial des États-Unis qui opère actuellement à partir de Nairobi au Kenya. Mais l'ouverture d'une ambassade à Mogadiscio devra attendre car, selon le département d'État, tout dépendra de l'amélioration des conditions sécuritaires.
Plus de 100 personnes ont trouvé la mort ce mercredi dans une série d'avalanches ayant frappé le nord de l'Afghanistan. La région a enregistré de fortes chutes de neige depuis deux jours. On compte aussi plusieurs dizaines de blessés, tandis que d'autres personnes sont portées disparues. Dans un communiqué publié dans la soirée, le président Ashraf Ghani s'est dit attristé par la perte de vies humaines, notamment dans les provinces du Panjshir, de Lagman, Nagarhar et Bamiyan. Les autorités locales n'arrivent pas à monter des opérations de secours effectives, faute d'équipement, ont-elles déclaré à l'AFP.
Ni Moscou, ni les rebelles séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ne respectent le cessez-le-feu qu'ils ont signé à la mi-février, a accusé aujourd'hui le secrétaire d'État américain John Kerry devant une commission du Congrès américain. Le chef de la diplomatie américaine a rappelé l'éventualité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie.
Visite dans la capitale syrienne de quatre parlementaires français de la majorité socialiste et de l'opposition de droite. La rencontre de ces élus avec le président Bachar al-Assad va à contre-courant de la politique du gouvernement français. En effet, il n'existe pas de relation diplomatique entre Paris et Damas depuis 2012. Ces députés et sénateurs se disent en mission personnelle, mais leurs entretiens avec les officiels syriens ont porté sur l'état des relations franco-syriennes et la question du terrorisme, indique-t-on dans la presse syrienne. La France exige le départ du président Bachar al-Assad et soutient que M. Assad ne peut faire partie d'aucune solution politique en Syrie.
Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU devraient s'abstenir d'user de leur droit de veto dans les cas de génocide et d'autres tueries de masse. C'est l'appel lancé par Amnesty International dans son rapport annuel publié aujourd'hui. Dans un entretien accordé à la section anglophone de la VOA, le secrétaire général de l'ONG de défense des droits de l'homme, Salil Chetty, a souligné que des millions de civils ont souffert d'horribles violences durant l'année écoulé un peu partout à travers le monde, par exemple en Ukraine, à Gaza et au Nigeria. Nous reviendrons sur ce rapport dans la seconde partie de cette édition.
La Cour suprême des États-Unis a entendu les arguments aujourd'hui sur une allégation de discrimination par une femme musulmane qui a été rejetée pour un emploi dans un magasin de vêtements de premier plan parce qu'elle portait un hijab. Samantha Elouf avait 17 ans quand elle s'est vue refuser un poste de vendeuse en 2008 dans un magasin d'Abercrombie & Fitch du sud-ouest des États-Unis. La raison évoquée par les responsables du magasin, Elouf ne répondait pas aux critères vestimentaires du détaillant. Après un procès pour discrimination, un jury lui a accordé 20 000 $, mais une cour d'appel avait annulé le verdict. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. D'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Le président guinéen Alpha Condé a nommé shérif Haïdara, alias le shérif de Washington, conseiller technique auprès du ministre d'État chargé d'investissement et des partenariats publics et privés, Kassori Fofana. J'ai demandé à shérif Mohamed Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, comment la nouvelle est perçue dans le milieu du business à Conakry.
Monsieur Chérif Haïdara est un cadre avéré, bien averti. Nous pensons qu'il peut apporter un changement. Étant donné qu'il a fait partie de la diaspora, il a beaucoup vécu, il a l'expérience. Donc nous pensons qu'il peut faire quelque chose.
Le ministre sud-africain des Finances, Nhlanhla Nene, a annoncé ce mercredi un budget de rigueur pour l'année fiscale 2015-2016, indique l'AFP. Pour stabiliser la dette et réduire le déficit, il prévoit une baisse des dépenses assortie d'une hausse des impôts sur le revenu qui n'ont pas été augmentés depuis 20 ans. Il compte stabiliser la dette publique à 45% du PIB contre 48% actuellement et l'État devra diminuer ses dépenses de 25 milliards de randes. Les éleveurs nigériens regroupés au sein du RECAN ont lancé la campagne « Sauvons les terres pastorales » afin d'attirer l'attention des décideurs sur la disparition progressive des pâturages au Niger, indique l'agence de presse africaine. À ce rythme, les aires de pâturage risquent de disparaître dans 40 ans, alertent les associations paysannes.
Merci Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Le Burkina Faso a un nouveau sélectionneur.
L'Allemand Gernot Rohr a été nommé par la Fédération Burkinabé de football. Gernot Rohr, 61 ans, ancien sélectionneur du Gabon et du Niger, remplace le Belge Paul Put qui a convenu avec la Fédération d'une séparation à l'amiable. Les étalons Morgane, on s'en souvient, avaient été éliminés au premier tour lors de la CAN en Guinée équatoriale. Gernot Rohr, dont la durée du contrat n'a pas été précisée, prendra également en charge l'équipe olympique du Burkina Faso.
En Europe, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
À 19h45, coup d'envoi de Monaco-Arsenal et Bayer-Leverkusen-Atlético Madrid. Hier soir, le Borussia Dortmund du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s'est incliné 2-1 en Italie sur la pelouse de la Juventus de Turin. En Angleterre, Luis Suarez, auteur d'un doublé, permet au FC Barcelone de s'imposer 2-1 sur la pelouse de Manchester City.
Cannes des moins de 17 ans au Niger.
La première demi-finale avait lieu aujourd'hui entre le Nigeria et l'Afrique du Sud et ce sont les Sud-Africains qui l'emportent, 1-0. On suivra ce jeudi, Morgane, la deuxième demi-finale entre la Guinée et le Mali.
La Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera donc en hiver et la FIFA reste ferme.
Il n'y aura pas de compensation financière il y a 7 ans pour s'organiser. C'est ce que dit Jérôme Valque, le secrétaire général de la FIFA, ce mercredi à Doha, face aux critiques des clubs européens qui grognent suite à la perspective de ce mondial en hiver 2022. Même si la solution d'une Coupe du Monde à ces dates-là en hiver n'est pas parfaite, nous ne faisons rien qui puisse détruire le football. C'est défendu le numéro 2 de la FIFA lors d'un point de presse du comité d'organisation local.
La NBA, championnat de basket nord-américain.
Quatre matchs au programme hier soir. Oklahoma City a remporté un 7e succès consécutif et poursuit sa remontée spectaculaire dans la conférence Ouest. Victoire contre Indiana 105-92. Washington a été victime du sursaut des Warriors de Golden State 114-107. À l'Est, Cleveland n'a pas tremblé face à Détroit 102-93. Enfin, Toronto, deuxième de la conférence Est, enchaîne une troisième défaite de suite, cette fois face à Dallas 99-92.
C'était les sports avec Nicolas Pineau. Merci.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique, chez Robin Dorsil et Morgane Guériac en votre compagnie. Place au dossier du jour, on est en RDC, Morgane.
L'armée a lancé lundi une offensive contre les combattants hutu-rwandais des FDLR dans le haut plateau d'Uvira. Quelle est la situation sur place? Eddy Sango a posé la question à un député sur place, Justin Bitakwira.
Les villages ont été vidés. Certains ont fui vers Sangé, d'autres ont fui vers Catalan, Sibérez, Aulemera. Les gens se brûlent des rues parce qu'ils n'étaient pas informés, ils n'avaient pas été sensibilisés. Mais je crois que petit à petit, ces FDLR sont en train d'aller plus encore vers les hauts plateaux de Rambo, de Bibangwa ou de Rubuga. On aurait souhaité certainement que les opérations se fassent dans le sens contraire, pour les amener vers la plaine au lieu de les amener encore dans la forêt. Mais ce sont les opérations que nous encourageons. Une petite résistance vers un coin qu'on appelle Kagabwe. Il y a eu une certaine résistance hier. Aujourd'hui, il y avait quelques crépitements d'armes. Mais sincèrement, la résistance n'est pas réelle. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est le commandant de FDLR qui était localisé vers Mulenge et vers les moyens et les hauts plateaux. Ce n'était plus, on ne pouvait plus les considérer comme des militaires. C'est des gens qui commençaient à vaquer normalement les occupations et n'embêtaient plus personne. Ça, je peux témoigner.
Et maintenant, quelle est la situation de la population locale? Parce qu'il semble qu'ils s'infiltrent dans la population et ils se livrent à des activités normales comme la population locale.
C'est vrai, il ne peut pas manquer de blessés parce que chacun offre dans son sens. Et comme je vous l'ai dit, que la population de Mulenge est allée vers Mugere, vers Sangé, vers Katala, vers M. Guereza, mais jusqu'à ce matin, les informations à ma possession et que petit à petit, les uns commençaient à rentrer chez eux pour aller chercher quoi mettre sous la dent. Le FDLR n'est pas une armée cantonnée quelque part. C'est des gens qui vivent avec la population. Ils exercent le petit commerce. Ils ont des petits restaurants. Ils ont le petit élevage. Ils s'adonnent à la vente de boissons, locales comme non locales. Ils sont connus, même quand ils voient la quête de leurs boissons à vendre. Ils ont toujours une arme sous les selles. Ils portent toujours une arme, ça je vous l'ai dit. Même quand ils ont toujours des armes dans leurs bras. Ils sont connus et identifiables. Ils ne se promènent pas sans armes. Ils en ont, c'est connu. Est-ce qu'ils ont suffisamment de munitions, là je ne saurais pas. Mais ce que je sais que hier, dans les opérations d'hier, il n'y a pas eu une résistance importante contre les FARDC. Il n'y en avait pas eu.
Le député de la région de Haut Plateau d'Uvira, Justin Bitakwira.
Une table ronde régionale consultative vient de se tenir à Kigali, au Rwanda, avec pour objectif d'élaborer une feuille de route vers une paix durable dans la région des Grands Lacs. Elle a réuni les responsables gouvernementaux, des acteurs de la société civile et des journalistes venus de la RDC, du Rwanda et du Burundi. On retrouve à Goma notre correspondant primo Pascal Rudaigua.
Les participants à cette rencontre de deux jours ont passé au peigne fin des propositions de la feuille de route régionale vers la paix durable dans la région des Grands Lacs. Propositions venues de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Joséphine Kusila est du programme Starek au Sud Kivu en RDC.
Il y a de ces dynamiques de conflits qui vont au-delà des frontières et qui affectent les populations transfrontalières. Et je souhaite que cette feuille de route puisse arriver à un niveau d'appropriation au niveau des gouvernants et au niveau des autres membres des populations qui ne seraient pas représentés ici.
Pour Thérèse Mukaruzika, qui travaille dans le programme Paix et Réconciliation au Rwanda, il faut penser à une synergie des différents acteurs pour la réussite de cette feuille de route.
Nous devons mettre nos efforts ensemble pour arriver à un impact palpable. Quand il y a des conflits dans l'un des pays, ça se répercute dans l'autre. Donc nous devons travailler ensemble pour la promotion de cette paix durable et le développement de nos pays, les institutions publiques et la société civile, tout le monde.
Le président du comité de la jeunesse des pays des Grands Lacs, Mutiki Kilumba, appelle les jeunes à mettre de côté les stéréotypes véhiculés par des politiciens à mal de positionnement.
Il y a trop de stéréotypes qui ont circulé et que quand on se côtoie, il y a beaucoup de stéréotypes qui tombent de soi. On demande à la CPGL d'arriver à ouvrir les frontières, aller à faciliter la circulation de personnes et de leurs biens, que les États travaillent pour ça. Dès que les gens ont des intérêts communs, ils se côtoient et beaucoup de choses tombent de soi.
Une équipe technique continue à travailler sur cette feuille de route afin d'intégrer les amendements proposés par les participants. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Niger, les populations de Bosso, dans l'extrême-est du pays, ont déserté leur village après l'attaque de Boko Haram. Ces nouveaux déplacés accueillaient chez eux les réfugiés qui fuient les atrocités au Nigeria. Idriss Fall a fait le point avec Aboubakar Mustapha Ligari, membre du comité d'action humanitaire à Difa et originaire de Bosso.
Bosso est devenu une ville fantôme parce qu'aucun paysan n'est vu maintenant là-bas. Il n'y a que des militaires. Après, la dynamite qui a explosé sur les militaires, là, donc les militaires ont demandé à la population de quitter le village. Actuellement, la population est déplacée sur Yébi à 3 km au nord de Bosso. Et ils vivent très très mal, si je peux le dire. Et ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'abri, pas d'eau potable, des enfants non accompagnés.
Bosso comptait combien d'habitants auparavant?
La ville de Bosso, je connais pas, mais le département de Bosso compte à peu près 63 000 habitants sans les réfugiés. Maintenant, avec l'afflux des réfugiés, vous imaginez un peu. C'était une vie très difficile qu'on menait dans la ville de Bosso. Mais comme vous le savez, en Afrique noire, c'est bien normal qu'on accueille nos parents qui ont quitté leur pays dans un problème critique que tout le monde le sait. Donc, imaginez un peu si encore cette dernière qui a accueilli les déplacés, les réfugiés du Nigeria, se déplace elle-même, y compris les déplacés.
Mais il n'y a pas de camp de déplacés et de camp de réfugiés dans la région?
Il y a un camp à plus de 50 km de la frontière, dans un village qu'on appelle Kablewa. Mais les réfugiés venus du Nigeria ne veulent pas partir parce qu'ils n'en croient pas du tout à propos du camp. Malheureusement, il n'y a pas eu de sensibilisation jusqu'à l'attaque de Bosso, parce qu'ils savent pas ce qui les attend là-bas. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller. C'est un truc volontaire d'aller dans le camp. Donc ils ont préféré rester tout autour du village de Bosso.
Et ils vivent comment alors?
Oh là, c'est très difficile aussi, mais comme vous le savez, la population nigériane se débrouille pas mal. Et ils vont sur le lit du lac Tchad, là où il y a l'eau. Ils travaillent pour les pêcheurs ou les agriculteurs pour pouvoir nourrir leur famille. Et puis les femmes font des trucs de AGR. Faire des beignets ou autre chose pour pouvoir vendre et rembourser les commerçants.
Mais pour acheter, il faut de l'argent. Il n'y a pas d'argent non plus.
Actuellement, il n'y a pas d'argent parce que tout est bloqué. Moi, je suis à Difa. J'ai quitté le département de Bosso très difficilement parce qu'il n'y avait pas le transport, les motos ne circulent plus compte tenu de l'état d'urgence. Et ça nous va droit au cœur. C'est pour notre sécurité, mais vraiment, les pauvres, les démunis, en tout cas, ils souffrent beaucoup.
L'état d'urgence a été prolongé hier par un conseil de ministres. Comment est-ce qu'on vit ça dans la région de Difa?
C'est mieux, mais c'est très difficile. Mais on comprend que c'est juste pour nous protéger, on comprend très bien, mais c'est très difficile de le vivre.
Aboubakar Mustapha Ligari, membre du comité d'action humanitaire à Difa, originaire de Bosso.
L'Afrique connectée, c'est le thème de Washington Forum. En quoi l'explosion des téléphones connectés à Internet a changé la vie des Africains? Les smartphones sont partout sur le continent, parlons-en. Laissez vos questions et commentaires sur notre page Facebook. Washington Forum, ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Dans son rapport annuel sur l'évolution de la situation des droits humains en 2014, Amnesty International s'inquiète de l'augmentation du nombre de civils exposés à des exactions commises par des groupes armés, de la multiplication des attaques contre la liberté d'expression et de l'aggravation de la crise des réfugiés. Le point avec Asiba Hadj Sarawi, haute responsable d'Amnesty pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord.
Les populations civiles se trouvent de plus en plus prises en étau entre d'une part des violations par les États et d'autre part des groupes armés. Et ce sont les populations civiles, les femmes, les enfants qui vont payer un prix élevé. Et ça c'est le cas tant en Irak qu'en Syrie, qu'au Nigeria avec Boko Haram. Et on voit vraiment qu'en Libye actuellement, donc des populations civiles qui sont prises en étau entre la violence étatique et la violence des groupes armés. Lorsque ces populations cherchent à fuir ces violences, elles se trouvent ensuite dans le dénuement le plus total, avec 4 millions de réfugiés syriens qui vivent dans des conditions déplorables, avec un certain nombre d'États qui ne respectent pas leurs engagements et qui refusent d'accepter sur leur territoire un nombre significatif de réfugiés syriens. Et donc, oui, il est terriblement triste d'être en 2015 et de constater que jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de réfugiés et de déplacés internes n'a été aussi important et que les populations civiles n'ont été autant la cible d'exactions.
Vous vous inquiétez du fait que la liberté d'expression, entre autres droits, est de plus en plus menacée?
La liberté d'expression est menacée, avec des menaces, là encore, qui viennent des États, mais aussi de groupes armés, comme on a pu le voir dans un certain nombre de pays. Mais on ne combat pas des mouvements radicaux sans liberté d'expression. Et le prix que certains payent pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression est immense. On voit effectivement de nombreux pays restreindre la liberté d'expression, envoyer leurs opposants en prison. Et cela, ce n'est pas la solution parce que la répression mène à la radicalisation qui engendre d'autres problèmes.
Vous constatez également dans votre rapport annuel que le nombre de mesures antiterroristes non conformes aux droits humains augmente. Vous citez par exemple le Kenya ou encore le Nigeria.
Le discours sécuritaire et l'approche tout sécuritaire génèrent de nombreux abus, que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria. Au nom de la lutte contre Boko Haram, les forces armées nigérianes commettent des exactions atroces, vraiment. Prenons le cas de l'Égypte également. Au nom de la lutte contre le terrorisme, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont actuellement emprisonnées. Et cette approche tout sécuritaire, cette approche non nuancée, en réalité n'est pas du tout efficace. Donc on appelle les États à la mesure.
Asiba Hadj Sarawi, haute responsable d'Amnesty pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, jointe à Londres par Camille Gros-Didier. Dans le dialogue des religions de ce mercredi à 19h, temps universel, un homme a été condamné à mort en Arabie Saoudite pour avoir renoncé à sa religion musulmane. Un crime, selon le wahhabisme en vigueur dans le royaume saoudien. Alors, qu'en pensez-vous? Vos commentaires en direct ou vos textos sur 225 58 92 85 40. Je reprends le numéro 225 58 92 85 40. Idrissa Seloudia sera en votre compagnie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show en 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
En Guinée, la nomination d'un militaire à la tête du ministère de l'administration territoriale par le président Alpha Condé a suscité de nombreuses réactions à Conakry. Le général Bourema Condé remplace Alassane Condé depuis hier, ce dernier devenant conseiller présidentiel.
Le président togolais Fonia Singbe, au pouvoir depuis 10 ans, devrait être investi ce mercredi par son parti pour la prochaine élection présidentielle, au grand dam de l'opposition et de la société civile.
Crise en République centrafricaine, les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia sont prêts à signer une déclaration pour rejoindre le processus de réconciliation.
32 degrés à Bosso et 35 à Bamako, 30 à Kinshasa en RDC. À Washington, la température a grimpé jusqu'à 2 degrés centigrades.
À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura, Raga FM, 90.5 Kisangani, Sabou FM, 96.6, Kindia, Guinée, et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui.